sur le plan d'hier soir, cela souligne le point qu'il est merveilleux d'être un homme. Parce que le dessein de Dieu est concentré sur l'homme. C'est pourquoi c'est très important qu'on fait attention au sujet des enfants. Parce que le Seigneur a besoin du temps pour gagner un homme, pour gagner une personne. Et beaucoup d'années pour travailler sur cette personne, pour que cette personne soit capable d'être utile pour être un vase de Dieu. Et nous avons vu aussi que le vase est important, la qualité du vase, cela est important. Récemment, on avons eu dans les églises une formation sur le livre d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel, chapitre 1, c'est un point très fort. On va lire un verset dans Ézéchiel, chapitre 1. Et si vous avez les notes en bas de page, on va lire une note en verset 5. Ézéchiel chapitre 1, verset 5. Chapitre 1, verset 5. Ensemble, au centre encore, apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes. Et puis, ça continue pour dire que chacun avait quatre faces et quatre ailes. Ça, c'est différent. Et la face d'un veau, d'un aigle. La première impression des quatre créatures, c'est l'apparence d'un homme, la ressemblance d'un homme. C'est très significatif parce qu'à la fin du chapitre, on voit dans cette vision que Ézéchiel a reçue, il y a un trône au-dessus des quatre êtres. Au-dessus de ça, un trône avec la ressemblance d'un homme. Dans notre concept, ça serait la face de Dieu. Mais en fait, celui qui est sur le trône, il a l'apparence, il a la ressemblance d'un homme. À cause du fait que le dessein est être exprimé sur la terre, Genèse 1, 26, cela fait du sens. S'il apparaît comme un homme, donc les quatre êtres apparaissent comme un homme aussi. Il y a une note dans la version recouvrement. Note 2. C'est pas trop long comme note, mais selon la vision dévoilée dans ce chapitre, l'homme est le moyen pour que le Seigneur manifeste son œuvre. L'homme est le moyen pour que Dieu manifeste son œuvre.
Sa gloire.
Sa gloire. Oh, sa gloire. Pas son œuvre, sa gloire. Romains 6 dit que l'homme a déchu de la gloire de Dieu. Nous avons été créés pour exprimer la gloire de Dieu. Et quand je dis l'homme, je veux que vous pensiez qu'un enfant, mon fils, ma fille, en certains cas mes petits enfants, petits-enfants. L'homme est le moyen pour que Dieu exprime sa gloire. Oh, j'espère que vous pensez, Susie, Jonathan, votre fils, votre enfant, c'est le moyen pour que Dieu exprime sa gloire. L'autre phrase, souvenez-vous de votre fils. L'homme est le moyen pour que le Seigneur se déplace sur la terre. Oh, un autre enfant qui vient. Félicitations. Le bébé qui vient bientôt. Elisabeth. Je vais lire. Elisabeth est le moyen pour que le Seigneur se déplace sur la terre. Amen. L'homme est le moyen pour que le Seigneur se déplace sur la terre. Il veut se déplacer sur la terre à côté des quatre êtres. C'est une vision étrange. Nous devons faire attention dans nos réunions quand nous avons les petits, les nouveaux, et nous parlons. Nous parlons d'un être avec quatre faces et les ailes. Et les saints disent, oui, oui, moi, j'ai besoin d'être un veau. Oh, cette semaine, j'étais un aigle. Nous devons faire attention quand nous avons les nouveaux. Nous devons avoir de communion parce que les nouveaux ne comprennent pas. Et puis, il y a une grande roue et l'esprit est dans la roue. Mais à côté des quatre êtres, à côté de chaque être, il y a une roue. La plupart de nous, disons, nous sommes venus ici par quatre roues ce matin. Nous étions dans un endroit et nous voulions nous déplacer. Donc, c'est la même chose avec le Seigneur. Quand il veut se déplacer, il a besoin des roues. Il a cet être avec la ressemblance d'un homme. Sans l'homme, Dieu ne peut pas se déplacer. Si j'étais Dieu, je ne savais pas si j'aurais la grâce d'être limité, de me limiter à l'homme. Mais c'est comment Dieu a décidé de le faire. Hier soir, nous avons parlé de prendre le chemin long pour sauver du temps. Donc, Seigneur, je peux te sauver 33 ans si tu prends mon chemin. Juste viens et prends la croix. Et c'est fait. Il a choisi le chemin de l'incarnation, de nous montrer un homme, un véritable homme. Dieu a besoin de l'homme. Dieu a besoin d'Élisabeth pour être son moyen, pour se déplacer. Il a besoin de vos enfants. Et l'homme est le moyen pour que le Seigneur
administre.
Dieu est sur le trône. Il veut administrer. Il veut faire quelque chose. Mais il se limite à travers l'homme. Et dans beaucoup de cas, ce que nous voyons, c'est que le vase qu'il choisit utiliser, il n'a pas choisi et juste il l'a utilisé. Il a pris beaucoup d'années pour les former dans les propres vases, dans les vases adéquats. Et hier soir, nous avons terminé notre communion avec le point « Dieu a besoin de beaucoup de Timothée. » L'Église a besoin de beaucoup de Timothée pour être adéquat, propre, riche, pour grandir parmi nous. 2 Timothée chapitre 4. Dans cette portion, 2 Timothée chapitre 4. Je pense que vous connaissez le sens, la signification de ce chapitre. C'est important parce que
chronologiquement,
2 Timothée chapitre 4, chronologiquement, c'était le dernier chapitre que Paul a écrit. Paul a écrit 14 épîtres. Si vous incluez le livre d'Hébreux, bien que ça ne se dit pas spécifiquement, mais nous pensons que Paul était l'auteur. Et Tite, Philémon, mais les livres dans la Bible ne se placent pas selon l'ordre. Comment ça s'est écrit. Mais Jean, sous la souveraineté de Dieu, les livres ont été placés selon cet ordre. Mais 2 Timothée, c'est le chapitre final. Parce qu'on lit à l'heure de mon départ. L'heure de mon départ s'avance. Il dit ceci en verset 6. Car je suis déjà répandu et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon départ. J'ai achevé la course. Désormais, il m'est réservé la couronne de justice. Verset 9. Empresse-toi de venir bientôt vers moi. Paul a besoin de Timothée. Il est sur le point pour son départ, pour être comme un martyr. Et il a dit à Timothée, empresse-toi de venir bientôt vers moi. Parce que celui m'a abandonné, l'autre m'a abandonné, Luc seul est avec moi. Quelquefois, quand nous lisons la Bible, nous lisons trop rapide. C'est bon de lire la Bible. C'est même bon de lire rapidement pour que nous finissions 2 années, 3 années. On sait avec 4 chapitres chaque jour, on finit en 2 ans. 3 chapitres de l'Ancien Testament. On finit en 11 mois. Et si vous lisez un chapitre du Nouveau Testament, on finit par octobre. Et pour finir, on devait juste lire. Mais quelquefois, ne lisez pas trop vite. Souvenez-vous que ce sont des vraies personnes. Quelquefois, on oublie que ce sont des vraies personnes. On a des oncles, des tantes. On dit, Luc seul est avec moi. Il est sur le point d'être
tué
comme un martyr. Et Luc était un médecin. Donc, ça semble que Luc est son assistant. Luc est venu au Seigneur plus tard comme un adulte. Luc est l'auteur du livre de Luc et le livre d'Actes. C'est très intéressant. Si on fait attention aux écritures d'Actes, en Actes 16, c'est la première fois qu'on voit Timothée. Acte 16. Je pense que vous savez ceci. Acte 16 suit Acte 15. Et Acte 15, Barnabas et Paul avaient une intention, un plan. Et Barnabas avait une dispute, oui, au sujet de Marc. Luc seul est avec moi. Prends Marc. Et
Marc est-il?
On ne voit pas Marc après acte 15. Je veux vous parler de Timothée et de Marc, parce qu'à la fin, Paul avait seulement Luc et il voulait Timothée et Marc. Qui sont ces Timothée et Marc? Ce sont deux personnes qui ont grandi dans la vie de l'Église. Deux qui sont produits, cultivés par les frères dans l'Église. Qui est Marc? La première fois qu'on a vu Marc, on a vu Marc dans le livre de Marc, par ses écritures, mais on ne sait rien de Marc. Marc qui a écrit l'évangile de Marc, Matthieu Marc. C'est très intéressant. Marc et Luc sont ensemble. Marc et Luc sont ensemble. Qui est Marc? La première fois qu'on voit Marc, c'est en acte 12-12. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Pierre est emprisonné de nouveau. Il se reposait en prison. Et puis l'ange vient. Et l'ange lui réveille. Les chaînes tombent. Et il marche à l'entrée du prison. Et comme dans la télévision, les portes s'ouvrent. Donc, il sort, il réalise, oh, ceci est réel. Je pensais que j'étais dans un rêve. Moi, je suis libre. Il pense, je ne sais pas ce qu'il a pensé, mais je pense qu'il a dit, oh, c'est mardi soir. Quand est-ce que vous avez votre réunion de prière? Oh, c'est mardi soir. Il y a une réunion de prière. Il savait où c'était la réunion de prière et il est allé à la réunion de prière. Il vient d'être libéré du prison, il est allé à la réunion de prière. Et cette réunion de prière, c'est dans la maison de Marie. Pourquoi la Bible nous dit ceci? Est-ce qu'il est important de savoir en quelle maison la réunion était? Pas beaucoup, mais c'est très significatif. Ça ne se dit seulement que c'était chez Marie, mais c'était chez Marie qui était la mère de Jean-Marc. Pourquoi on doit savoir ceci? Parce que l'histoire fait du sens complet, sans savoir le nom de l'enfant, mais c'est très significatif. Parce que dans la Bible, c'est un des points qu'on va suivre dans le plan. Dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de paroles claires en comment être un parent. À part de proverbes, on voit des bons versets en comment être un parent. À part de proverbes, on ne trouve pas beaucoup de versets. On a un peu de versets en Éphésiens, en Colossiens. Mais à part de ceci, on n'a pas de paroles claires. Mais on a beaucoup de modèles, beaucoup d'histoires. Et des histoires, on peut apprendre quelque chose. C'est une histoire dans la maison de Marie. Et Marie est la mère de Jean-Marc. Qui est notre Marc? Et plus tard, on sait que Marie peut être le frère
de Marie.
Et la parenté de Barnabas. Et Barnabas est celui que, quand Paul était sauvé, il a amené Paul dans la fonction de l'Église. Donc, nous avons Paul, Barnabas et plus tard Timothée. Ce sont des vraies personnes. Il va à cette maison. Qu'est-ce que vous pensez qu'on priait dans cette réunion de prière? Ne pensez-vous pas qu'on priait « Oh Seigneur, libère Pierre, fortifie Pierre. » Ne savez-vous pas que 100% assurance qu'on priait comme ça? Et puis Pierre a frappé à la porte. Et la servante, elle a dit, on ne connaît pas son nom, c'est peut-être Rhoda. Elle court à la porte. Et elle dit au saint, c'est Pierre. Et les saints disent, oh, ça ne peut pas être. Oh, on prie quelquefois, oh Seigneur, fais ceci. Et puis on dit, oh non, on ne croit pas que le Seigneur peut faire ceci. Surtout, pas si vite. On prie comme ça, sans foi. Oh, ça ne peut pas être Pierre, ça peut être un ange. Oh, peut-être son ange. Donc, on sort, on dit, Pierre. Pierre appelle Marc, son fils spirituel, dans ce livre. Donc, Pierre avait une relation avec Marc. Marc avait une connexion avec Pierre et avec Paul. Paul et Barnabas, ils sont allés en voyage de ministère. Marc les abandonne. Et Paul était préoccupé de ceci. Donc, pour le prochain voyage, Barnabas voulait prendre Marc, mais Paul a dit non. Mais Barnabas a pris Marc et se sont sortis. Et on n'a rien parlé de ceci jusqu'ici que Paul a dit « Amen, Marc ». Quelque chose s'est passé. Et Marc avait tourné. On sait que juste à la fin, Marc était très bon. Est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Ceci est Timothée. La vie de Timothée. Il est un peu faible quelquefois. On peut le voir. Paul a dit, ne méprisez pas sa jeunesse. Ranime la flamme. Les jeunes sont comme ça, plus ou moins consistants. On a ici Timothée. Et à la fin, il était toujours avec Paul. Paul a abandonné Timothée. Paul a laissé Timothée là pour corriger la situation. Il a dit, charge-les de ne pas enseigner des choses différentes que l'économie de Dieu. Il devait corriger parce qu'il avait la confiance en Timothée. Donc, c'est Marc ici. C'est Marc. Et nous ne savons pas ce qui s'est passé. Mais ils ont fini ensemble. Ce sont nos enfants. Quelques-uns plus ou moins consistants. Les autres sont détournés un peu. mais nous avons confiance dans le Seigneur pour ceci. Nous avons besoin de beaucoup de marques pour être restaurées au Seigneur, pour être utiles au Seigneur. Que le dépôt qu'on a fait quand il était jeune, que ce dépôt, un jour, sera ranimé. Nous devons prier pour ça. À la fin, Paul avait besoin de ce genre de personnes. À la fin, Paul avait un Luc, un Marc et un Timothée. Une personne plus adulte et les petits, les plus jeunes. J'aime comment on dit, il était utile au Seigneur. Donc, ces années semblent comme il avait détourné, mais même ceci, le Seigneur peut utiliser. Donc, nous devons prier pour notre prochaine génération. Nous devons avoir confiance dans le Seigneur pour ceux qui sont même dans le détour. Nous devons avoir confiance dans le Seigneur et prier pour eux qu'ils soient utiles au Seigneur. Nous devons croire en ceci et prier pour ceci. Nous venons maintenant au plan. Le titre, le sujet, c'est la personne, la manière de vivre et la responsabilité des parents. La personne, la manière de vivre et la responsabilité des parents. En fait, c'est plan qu'on utilise ce week-end. Viennent du livre Élever la nouvelle génération, la prochaine génération pour la vie de l'Église. Il y a 26 chapitres et dans chaque chapitre, il y a un plan et nous prenons 6 de ces plans pour être le contenu de cette conférence. Mais ces plans sont différents que beaucoup de plans qu'on reçoit dans nos réunions. Dans ces plans, chaque phrase, dans ce plan ici que vous avez, chaque phrase, chaque ligne est un fait d'un extrait du ministère, soit du frère Lee ou Nee, de leur livre. Donc, c'est un projet de 4 ans que les saints ont pris de ces livres, chaque écriture que les frères ont parlé des parents, des enfants, de paître les enfants. Dans le ministère des frères Lieni, si on achète les œuvres
collectionnées,
qui sera complété par l'année prochaine. On a près de 200 volumes. Mais avec les parents et les enfants, on n'a pas beaucoup. Ce n'est pas notre
spécialisation.
Si vous avez tous les volumes des œuvres collectionnées, mais peut-être seulement un volume sur les enfants. Mais 26 chapitres dans ce livre, c'est pas grand-chose. Chaque chapitre a un plan et puis on a les extraits, la source du matériel, l'origine des extraits. Donc, chaque point ici, ça vaut la peine de lire, d'entrer dans la lecture de ces points. C'est pas mon fardeau de juste répéter ce qui est dans le chapitre. C'est pas mon fardeau de juste couvrir tous les points, mais vous pouvez faire ça. Vous pouvez acheter le livre et lire et capter plus des extraits. Je veux juste avoir communion avec vous sur ces points, ce que nous avons reçu et dans les points qu'on avait, on n'a pas réussi. Pour que vous ne répétiez pas les mêmes erreurs, donc je fais de mon mieux de partager le fardeau du chapitre, plutôt que tous les détails. On va sauter un peu, mais vous pouvez lire le chapitre et les extraits. Ça, c'est mon introduction. On va commencer avec point 3. C'est pas normal qu'on commence avec point 3. On lit ensemble. Mis à part le livre des Proverbes, l'Ancien Testament ne nous donnait pas beaucoup d'enseignements concernant le rôle parental, mais il y a quelques bons exemples. Mais en fait, il y a beaucoup de bons exemples et quelques mauvais exemples aussi. On peut apprendre des mauvais exemples. Une fois, j'ai donné des messages à un groupe de sœurs. Je l'ai appelé 40 plus 7 plus 1. C'était le titre de mon message. 40 plus 7 plus 1. 40 exemples de sœurs, de femmes dans la Bible. Et toutes leurs histoires. Et des histoires, des 40 histoires positives. J'ai pris 7 principes ou 7 fonctions que les sœurs jouent dans l'économie de Dieu. 7 fonctions. 40 plus 7. Et le 1, c'est un mauvais exemple. Elle était une mauvaise mère, mais on peut apprendre des mauvais ainsi que les bons. Ici, on parle de bons exemples. On a 5 points A, B, C, D, E. Peut-être on va juste faire quelques-uns. C, point C. Noé avait hérité de toutes les choses pieuses de ses ancêtres. Noé héritait le chemin de salut d'Adam, le moyen d'Abel pour l'offrande, la voix d'Enoch sur l'invocation du nom du Seigneur et également la façon d'Enoch de marcher avec Dieu. Noé était en fait quelqu'un qui a tourné l'âge et on a un message dans l'étude de vie de Genèse. La vie qui a tourné l'âge. Nous pouvons être ceux qui tournent l'âge aussi. Dans beaucoup de cas dans la Bible, on a cette phrase qui pour quelqu'un qui tourne l'âge, the age turners en anglais. En espagnol, on dit ceux qui tournent l'âge. C'est la même chose en français. On n'a pas un seul mot pour age turners, on dit ceux qui tournent l'âge. Dans beaucoup de cas de ces histoires, de ceux qui ont tourné l'âge, comme Daniel, Samuel, Noé, nous avons la tendance de souligner juste une personne. Mais en fait, presque tous les cas, presque tout cas, chaque cas, cette personne qui a tourné l'âge n'est pas tombée des cieux. C'était une personne qui était produite. Je vais parler de Daniel un peu. Donc, on n'a pas fait référence aux parents de Daniel, on pense, mais je vais vous montrer. L'histoire de Samuel, on peut voir Hannah, elle a produit Samuel.
s'il n'y avait pas de Hannah, il n'y avait pas de Samuel. Hannah était quelqu'un qui a tourné l'âge avec Samuel. Noé, on voit ici, Noé est venu d'une famille pieuse. Pas juste ceci, mais Noé n'avait pas tourné l'âge seul. Dans ce cas, c'était une famille. Une famille qui a tourné l'âge. 8 personnes sont entrées dans l'arche. Qui étaient ces 8 personnes? C'était Noé. Et ce Noé, on ne connaît pas son nom. Madame Noé. 3 fils, oui. C'était 5. Mais chacun des fils avait un ami. Ça a commencé avec un ami. Ils ont marié 3 filles. 3 filles et ces 3 filles ont tourné l'âge, ont participé à tourner l'âge aussi. J'espère que dans le royaume, dans le temps de la Nouvelle Jérusalem, j'espère qu'on aurait le temps de s'asseoir pour parler avec les filles de Noé. Ils sont entrés dans l'arche et quand la porte s'est fermée, ils ont tenu ensemble, ils sont restés ensemble avec Noé. Quelquefois, on ne pense pas que ce sont des personnes, des vraies personnes. Il y a beaucoup à faire avec les 3 filles, les 3 fils. Ces 3 fils avaient un plan. Ils sont restés avec le père qui n'était pas populaire. Ils sont restés. Ils ont souffert la moquerie. Ils savaient les personnes qu'ils étaient. Ils étaient justifiés. Ils savaient qu'ils sont venus d'une famille spéciale. Et on connaît le rôle que Methuselah a joué dans tout ceci. Methuselah était son
ancien grand-père.
Il était le fils d'Enoch. Et ça dit que Enoch avait 65 ans et il avait Methuselah, il a marché avec Dieu pour 300 ans et il n'était plus. De nouveau, c'est une famille. Methuselah qui a un nom étrange. Methuselah. La réponse pour une question de trivia. Qui est la personne qui a vécu le plus long dans la Bible? 969 ans. Si vous faites les mathématiques, vous réalisez. Il est mort le même an de l'inondation. Il est mort avant l'inondation, mais il devait être 9 personnes dans l'arche, mais il y en avait 8. Ne croyez-vous pas commettu cela un certain temps. Il disait au fils, les garçons, venez. Je veux vous parler de mon frère. Je ne sais pas que vous le faites.
Mon père.
Vous parlez à vos enfants, de votre père, à vos
arrière-grands-parents.
Est-ce que vous connaissez Japheth, Ham, Shem? Vous appartenez à une famille spéciale. Je crois. Oh, mon père, il a marché avec Dieu. Mon père m'a donné ce nom. Il m'a dit, quand je serai mort, ça se passera. Peut-être on disait, grand-père, qu'est-ce que c'est? Et vous pouvez dire, moi, je ne sais pas. Mais vous devez être prêt. Et vous devez suivre votre Père parce que Dieu nous a donné cette révélation. Moi, je crois qu'il y avait des conversations comme ceci. Parce que ces garçons ne sont pas seulement entrés dans l'arche. On dit quelquefois que la moitié de l'accroissement doit être à l'extérieur et trois de l'intérieur. Trois de l'extérieur et trois de l'intérieur pour avoir une vie d'église adéquate. Donc, la famille de Noé avait cette sorte d'histoire qui a passé à la prochaine génération. Notre génération a besoin d'un sens d'identité. Ça doit être infusé en les enfants quand ils sont jeunes. Il faut faire un bon travail en faisant ceci. Nous devons les faire comprendre. Ça, c'est de notre père, de notre grand-père, de notre ancien grand-père. L'autre exemple, c'est Moïse. Avant de toucher Moïse, si vous pouvez tourner à Exode 12, 26 et 27. Exode 12, 26 et 27. Ces versets sont liés à la nuit de Pâques. La nuit de Pâques, bien sûr, dans chaque maison, on devait tuer un agneau et on devait appliquer le sang sur la porte. Je vous demande de penser de ceci. La fonction de tuer l'agneau comme un sacrifice, la fonction d'appliquer le sang, c'est la fonction de qui? À qui est-ce qu'on associe ceci? Les prêtres, les sacerdotes.
Sacrificateurs.
En Exode 19, après qu'ils sont sortis de l'Égypte, Dieu a dit, « Je vous ai amené sur les ailes d'un aigle. » Et il a dit, « Vous serez un royaume de sacrificateurs. » Dieu a toujours désiré que tout son peuple soit sacrificateur. Nous ne pratiquons pas
une classe médiatoire,
mais chaque saint contacte le Seigneur. Chaque saint devrait amener Dieu à l'homme et l'homme à Dieu. Chaque saint doit faire ceci. Mais dans l'Ancien Testament, ce n'était pas comme ça. Pas tout le monde était un sacrificateur. parce qu'ils ont adoré l'idole, les idoles. Dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas fait ça, cela absolument, mais c'était comme ça au commencement. C'était comme ça dans les années de 1700. Mais nous étions en train d'arriver là, de parvenir ceci, mais pas encore. Quand le frère Lee, il est retourné pour étudier la voie prescrite par Dieu. Ce sont les sujets qu'on a étudiés. Donc, dans l'Ancien Testament, cette nuit de la Pâque, il y avait des sacrificateurs dans chaque maison. Mais qui étaient les sacrificateurs? Les parents. Les parents. Il y avait un agneau pour chaque maisonnée. Mais dans chaque maison, un agneau était tué et le sang était appliqué. Dans chaque maison, il y avait un sacrificateur. Et les sacrificateurs étaient le père et la mère. Exode 12, 26. 25. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qui sauva nos maisons. » C'est très intéressant. Les enfants vous demanderont « Maman, papa, qu'est-ce que vous faites ?» Pourquoi vous tuez cet agneau? Pourquoi vous appliquez le sang ici? Puis on dit, verset 27, vous répondrez. On ne pouvait pas dire, attendez jusqu'à le jour du Seigneur et les serviteurs vont dire aux enfants. On ne pouvait pas dire, attendez, on va inviter à tante Myriam pour donner un cours aux enfants ou pour dire, on va inviter Aaron ou Moïse. La responsabilité était avec les parents. Donc, les parents n'étaient pas seulement les sacrificateurs, mais les évangélistes et les prophètes, les enseignants. C'est ce qu'on voit ici, l'intention de Dieu. C'est que tous les parents parlent la parole de Dieu aux enfants. Et ce type de la Pâque, tout le monde doit apprendre à prêcher l'Évangile. J'avais le privilège d'amener mes trois enfants au Seigneur. Ils ont prié pour recevoir le Seigneur. En verset 26, c'est très significatif. Que signifie pour vous? Chacun de nous doit être capable de témoigner. Ce n'est pas juste une explication. Chapitre 13, verset 8. 13, 8. Et vous direz à son fils. Tu diras alors à ton fils. C'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi. Donc, quand votre fils vous demande, vous direz, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi. Les parents doivent prendre cette responsabilité d'être les sacrificateurs, les évangélistes et les enseignants. Donc, en parlant de Moïse, point D dans le plan. Dans la préparation de Moïse, Dieu a préparé les parents pieux qui lui ont infusé les pensées pieuses après sa naissance. À travers l'infusion de ses parents, Moïse avait la pensée divine et le concept qu'il avait besoin de sauver les enfants d'Israël. On a parlé de ceci hier soir. Pharaon avait ce plan pour détruire les enfants mâles. Et nos deux sœurs, Shipra et Pua, sont devenus les sauveurs d'Israël. Ils ont forcé Pharaon de changer son plan. C'est chapitre 1. Chapitre 2 maintenant. Le nouveau plan, c'est quand le bébé, le garçon, est né, c'est trop tard. Donc, elle a lancé dans la rivière. Elle a gardé le fils. Donc, c'est une image de que Satan, il n'abandonne pas ses plans. Donc, est-ce que vous connaissez les noms des parents de Moïse? Le père, c'est Amram et Jochebed, la mère. Ils ont créé ce plan pour le cacher pour 3 mois. Comment est-ce qu'on cache un bébé pour 3 mois? Vous savez ceci. Oui, les bébés pleurent. Comment est-ce qu'on cache un bébé qui pleure pour que les Égyptiens ne sachent pas qu'on a un bébé là? Mais ils l'ont caché pour 3 mois. Jour et nuit pour 3 mois. Et puis, on avait ce plan, on a fait un panier. Ils l'ont envoyé. Et qui se baigne là? La fille de Pharaon. Elle est là et elle le voit. Elle sait ce qui se passe. Elle n'est pas stupide. Elle le regarde et elle a dit, « Oh, il est beau. Je pense que je vais le prendre. » Oh, cette fille sort et elle dit, Madame, est-ce que vous voulez que je trouve une femme hébreu pour prendre soin de l'enfant? Elle a dit, OK, c'est bon, oui, je vais te payer. OK, bye, on a fait un plan, bye, au revoir. Et elle va à sa mère et dit, Maman, Ça marche. Mais je ne sais pas combien de temps les mères nourrissent leur enfant pour beaucoup de temps. Mais on sait que pendant ce temps, Jochebed, elle nourrissait l'enfant. Donc, l'enfant a grandi dans la meilleure éducation, meilleure culture. Take over. Yeah. En Hébreu 11.
Hébreu 11, 23 et 24 dit que par la foi, Moïse, lorsqu'il était né, il était caché par ses parents, parce qu'ils ont vu que le bébé était beau et ne craignaient pas l'ordre du Pharaon. Et Moïse, il a choisi d'être maltraité par le Pharaon. Le verset 24, Hébreux 11, 24, 23 se dit par la foi Moïse. Mais en fait, ça ne parle pas de la foi de Moïse. Ça dit par la foi Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Est-ce que vous avez vu au verset 23? Pour les témoins de la foi, ce n'est pas Moïse, mais ce sont ses parents. Ensuite, les versets 24 et 25 se rapportent à Moïse. Donc, ce n'est pas juste Moïse qui était un héros de la foi, mais ses parents sont sur la liste avant lui. Je suis si content qu'ici ça dit « ses parents ». Parce que dans l'histoire, ça ne fait pas mention de son père. C'est surtout, on voit les sœurs qui sauvent Moïse. Mais merci Seigneur que le père, il était dans l'arrière-plan aussi. Donc les pères ont aussi un rôle. Nous voyons dans la Bible la fonction primaire et avec les sœurs, mais c'est la fonction primaire, ce n'est pas la seule personne qui fonctionne. Les pères aussi, ils ont leur propre fonction. Venons au plan. On va aller en arrière au chiffre Romains 1. Chiffre Romains 1 et 2. Lisons Chiffre Romains 1 ensemble. Dieu accorde plus d'attention à ce que nous sommes, plus qu'à ce que nous faisons ou à ce que nous pouvons faire. Ce qui lui concerne est le type de personne que nous sommes et pour la manière de vivre que nous vivons. Nous avons ici 1 Thessaloniciens 1:5. Paul qui parlait aux Thessaloniciens, il a dit, vous savez quelle sorte d'homme nous étions. Au chapitre 2, le verset 1, il a dit, vous savez quelle sorte que notre entrée auprès de vous n'a pas été en vain. Dans l'église, ça dit, la chose la plus importante est la personne. La personne est le chemin et la personne est l'œuvre du Seigneur. C'est, nous savons tout cela, mais nos enfants nous voient, nous connaissent. Ils nous connaissent. Et notre vie devant eux est plus importante que nos paroles. Nos paroles sont importantes, mais elles doivent correspondre à notre vie. Je crois que une des raisons principales que les chrétiens ne sont pas capables de garder leur propre prochaine génération, c'est à cause de l'hypocrisie. Les enfants voient un standard double. Ils voient que leurs parents en contact avec les autres membres de l'église. Et puis, ils voient leurs parents à la maison. Et vous savez qu'il y a un certain ton de voix que nous utilisons seulement avec nos membres de famille. Et les saints ne nous entendent jamais parler de cette manière. Mais les enfants observent. Et parfois, les enfants vont conclure, « Papa, tu ne parles qu'à deux personnes de cette manière, moi et maman. » Mais lorsque le frère Ron vient, « Oh, combien vous êtes saints. » Peut-être que l'enfant pense, « J'aimerais que le frère Ron habite avec nous. » Comme ça, j'aurai un père saint. Il se peut que nous parlions au téléphone, nous avions de la communion, et le petit enfant vient et dit, « Papa, et il dit, il fait un grimace. Ne sais-tu pas que je suis au téléphone? Et seulement deux personnes voient cette face, le petit enfant et maman. Il se peut que nous appelons chérie, ton fils. Nous faisons une expression, une grimace à notre femme. Ce n'est qu'elle qui a le privilège de voir cette face. Et puis, Elle prend le fils. Et puis le Père continue. Amen, amen. Loué soit le Seigneur. Ne pensez pas qu'après 1 an, 5 ans, 10 ans, les enfants, ils vont conclure, ils vont voir qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas. Chiffre romain 2. Nous avons besoin de voir que nous sommes les hommes Dieu, nés de Dieu et appartenant à l'espèce de Dieu. Cela est le début de la vie de l'homme Dieu. Point B. Nous avons besoin de la vie d'un homme Dieu dans notre vie conjugale. Les sœurs, lisons point 1. Vivons-nous Christ à la maison avec notre mari ou notre épouse et avec nos enfants? Nous nécessitons un véritable réveil pour être les hommes Dieu, vivant une vie qui renie toujours le moi et qui est crucifié, afin de vivre Christ pour l'expression de Dieu. Frère 2. Nous devons être prudents en tout détail. Par exemple, lorsque nous parlons à notre conjoint, nous devons parler selon l'esprit. Nous devons marcher en toutes choses selon l'esprit. Nous devons être attentifs et être en alerte concernant tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous exprimons, notre attitude, notre esprit et notre intention doivent être purifiés par l'esprit qui donne la vie, composé tout inclusif. Nous avons besoin de cette sorte de vie dans notre vie familiale. Nous allons aborder ce sujet à la fin de la prochaine session. C'est la part de semer les semences. Dieu n'est pas moqué. Ce qu'un homme sème, il le sera aussi. Chers frères et sœurs, on est toujours en train de semer notre vie. Est une semence. Surtout à la maison, on sème des semences, même si nous ne nous sommes pas conscients. Par notre attitude, ce que nous exprimons, parfois, nous ne sommes pas prudents. Nous conduisons chez nous. Et la sœur qui servait avec les enfants, elle entre. Après le jour du Seigneur, la réunion, elle dit, « Comment a été la réunion ?» Et le papa dit, « C'était correct. » Frère Ron a partagé encore. Il y a un ton, une attitude, et maman pourrait dire, « Oh, Ron encore. » Vous ne constatez pas que vos deux enfants, ils peuvent entendre. C'est une petite semence. Ça se peut qu'ils peuvent se parler l'un avec l'autre. Je pense pas que papa aime Ron. Et la fille pourrait dire, qui est Ron? Je sais pas, mais je pense pas que maman l'aime non plus. C'est une petite semence. Vous pouvez oublier. Mais, lorsqu'ils grandissent, ils peuvent assister à une conférence de jeunes gens. Il se peut que le frère Ron est celui qui parle et se tient debout. Ils disent, c'est lui, Ron. Oui, je pense pas que je l'aime non plus. Et il se peut que vous n'avez aucune idée que cette semence ait grandi pour être une opinion. Nous devons exercer, surtout dans nos paroles. Si vous désirez vivre Christ, vous devez faire attention à vos paroles. Avec nos paroles, nous semons des semences. Et il se peut que nous exprimions des opinions concernant l'Église, concernant les frères et sœurs. Et nous pouvons parler même à la table du souper librement, mais ce sont des semences. Même on n'est pas conscient. Je ne peux pas vous dire, ne dites pas ces choses. mais je vous encourage de les dire derrière les portes fermées. Et assurez-vous que les personnes ne peuvent pas, les enfants ne peuvent pas entendre. Dans nos paroles, notre expression, nous devons vivre Christ. Cela nous ramène au premier point du premier message, c'est l'économie de Dieu. Nous devons être sous la dispensation de Dieu en tout temps. La manière d'être un bon parent, c'est d'être sous la dispensation de Dieu. Mais rappelez-vous que sous la dispensation du Seigneur, nous recevons l'Esprit tout inclusif. Et dans cet Esprit tout inclusif se trouve la mort et la résurrection du Seigneur. Même la croix se trouve dans l'Esprit. Nous avons besoin de plus de la croix dans nos paroles. Nous avons besoin de plus de croix dans notre vie, même dans l'expression de notre visage. Ici, tout le monde est content. Salut frère, salut sœur. Mais là, leurs visages sont différents. Nous devons appliquer la croix. Parce que, souvenez-vous, nous semons des semences tout le temps. Et nous formons les vases. À chaque fois que nous sommes avec nos enfants, nous les formons. Je pense que ça suffit pour cette session. Et on peut compléter ce plan dans la prochaine session. Je suis désolée, on n'a pas de temps pour les partages maintenant. Mais après la prochaine session, nous aurons du temps. On va terminer par une minute de prière. On va prier dans les groupes de deux ou trois. Amen.